AWT vum Dach beim Maurice Molitor aus hauten Generaldirektor vun der Agence e-Santé.
Hervé Barge, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler de ce qu'on appelle communément le patientendossier et plus solennellement le dossier soins partagés, DSP. La grande majorité des assurés de la CNS devraient avoir reçu au cours des derniers mois un courrier de l'agence e-Santé que vous dirigez, les informant tout d'abord qu'un dossier avait été créé à leur nom, les invitant ensuite à l'activer. Est-ce qu'ils ont été nombreux à le faire ?
Oui, donc en gros, au stade d'aujourd'hui, à peu près 722 636 dossiers de ce matin, pour être précis, donc oui. Qui ont reçu un courrier
sur
une cible de 850 000 assurés de l'assurance maladie de la CNS.
Oui.
Donc ça, c'est la cible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pratiquement atteint l'objectif des 850 000 assurés d'ici la fin de l'année.
D'accord. Et sur les plus de 700 000 qui ont déjà reçu leur courrier, combien ont activé ou désactivé le compte ?
Alors, voilà, ce qui est important, c'est de voir, il y a plusieurs indicateurs, et de bien définir ce dont on parle, mais aujourd'hui, le taux est vraiment très, très, très positif au sens fermeture, c'est-à-dire qu'on a un taux de fermeture de 0,07%, ce qui est vraiment très, très faible. Beaucoup d'explications de notre helpdesk, beaucoup d'appels, les gens sont vraiment intéressés, je pense, par le projet, et on a vraiment un taux de rejet, on va dire, ou de fermeture, en tout cas, de ce DSP très faible. En sachant qu'on a même des cas où les gens ferment le dossier et puis un mois après, parce qu'ils ne sont pas chez le médecin entre-temps ou dans un hôpital, réouvrent ce dossier. Donc il y a toujours la possibilité de toute façon, à tout moment, de le refermer et éventuellement de le rouvrir. En termes de dossiers de soins partagés actifs, qui auraient par exemple au moins un document dedans, ce sont 284 000 dossiers de soins partagés qui ont au moins un document. Et ce dossier de soins partagés, la particularité par rapport à d'autres projets, c'est que le patient peut l'utiliser et le médecin, bien évidemment, ou les professionnels de santé, d'ailleurs, de façon large, peuvent l'utiliser. Donc le point intéressant, d'ailleurs, c'est un des indicateurs que l'agence suit et son conseil d'administration suit, plus particulièrement, c'est non seulement le nombre de dossiers de soins partagés qui ne sont pas fermés, donc les 722 000 actuellement, est-ce qu'il y a des documents dedans ? Ça, c'est aussi un des éléments importants. Donc, depuis ce matin, ça, c'est aussi un élément intéressant en termes de chiffres. C'est pratiquement 906 897 documents qu'on retrouve dans les dossiers de soins partagés au Luxembourg. Ça, c'est un indicateur important parce que ça veut dire que des professionnels de santé envoient des documents. Alors, majoritairement, c'est vrai qu'avec le contexte de la Covid, c'est beaucoup de documents de biologie. Mais dès qu'un patient, par exemple, n'a pas son document, souvent, on a des appels au helpdesk. Et donc, on voit cet intérêt des patients d'y retrouver dans un point unique, le dossier de soins partagés, leurs informations médicales.
Qu'en est-il des dossiers qui sont ouverts, mais qui n'ont ni été activés, ni désactivés ?
Alors, tout simplement, ça peut être d'ailleurs le cas très fréquent, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait 25, 30 ans, en pleine force de l'âge, pas de maladie chronique. Il va peut-être aller voir son médecin une fois par an. Ce qui veut dire que ces dossiers qui ne sont pas remplis pour l'instant en termes de volume, ils y seront peut-être simplement dans un an au passage, par exemple, d'une petite grippe ou quelque chose comme ça, ou d'un
examen. Même s'ils n'ont pas été activés par l'assuré pendant les 30 jours après réception du courrier.
C'est ça. Alors, il y a soit j'active mon compte plateforme et j'active de fait l'accès et la gestion de mon DSP, c'est-à-dire je peux aller voir qui peut y accéder, qui peut ne pas y accéder, puisqu'on peut le faire. Je peux aller lire mes documents de biologie. Mais automatiquement, de toute façon, le dossier de soins partagés au terme des 30 jours, ça c'était une des demandes particulières de la CNPD pour respecter le règlement Grand Ducal, c'est-à-dire vous avez 30 jours pour dire en fin de compte, je laisse mon dossier s'ouvrir et puis s'il y a des documents qui arrivent, un jour j'irai voir, mais s'il n'y a pas besoin d'aller voir, je ne l'active pas au niveau du compte. Mais ce qui veut dire qu'au bout des 30 jours, automatiquement le dossier devient actif, devient opérationnel. Ce qui fait que même si vous ne vous occupez pas de la procédure, c'est vrai qu'il peut être un petit peu long parce qu'il y a aussi beaucoup d'explications, c'est au niveau de sécurité. Donc, vous devez respecter l'authentification fort, donner un certain nombre d'informations. Mais malgré tout, si vous ne le faites pas, votre compte s'ouvre et éventuellement, vous recevrez votre résultat de biologie, par exemple, en cette période de Covid.
Donc, imaginons que j'ai reçu mon courrier il y a 3 mois. Je l'ai perdu. Je n'ai jamais fait de démarche active. Oui. Mon compte sera quand même activé. Je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit.
Voilà. Alors, par contre, si vous voulez accéder à vos données par le compte plateforme, alors, quand vous avez oublié ce qui peut arriver dans une pile, par exemple, où vous avez par erreur jeté ce document, en tout cas, si vous ne le retrouvez plus, il suffit d'appeler notre helpdesk, c'est sur le site, et on a 6 personnes qui sont capables de répondre dans pratiquement toutes les langues à vos questions et de vous redonner un code qui va vous permettre d'accéder cette fois-ci à votre dossier et de le gérer.
Si je vous accordais une minute pour faire la promotion de l'outil DSP, que diriez-vous aux assurés? Pourquoi devraient-ils activer le dossier?
Là, je vais enlever ma casquette de directeur général de l'agence, puisqu'on pourrait dire que j'ai des enfants, j'ai une épouse, j'ai des petits-enfants. Je crois que, comme beaucoup de monde, ce sont beaucoup de données qui sont éparpillées, soit chez des médecins, soit lors d'un passage à l'hôpital. Et je ne parle pas de maladies chroniques lourdes, comme des cancers, des prises en charge des AVC, qui nécessitent encore plus de documents. Et bien, c'est au moins pour moi le premier intérêt de récupérer dans un point central ces informations. Par exemple, un examen de biologie qui a été fait ce matin, il est dans mon DSP ce soir, je le consulte, je l'imprime si je souhaite. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire, pour moi, en termes d'usage, je récupère ces informations médicales importantes et puis si un jour je vais en déplacement, en voyage, ça me permet de transporter une partie de ces informations. L'autre point qui est important, encore plus important si on a des maladies chroniques, c'est un outil de coordination. Je le dis souvent, en France ou en Allemagne, c'est entre 10 à 18 000 morts évitables. Je dis bien évitables, tout simplement parce que l'information n'était pas là. Les risques iatrogéniques, ça veut dire que quand on a des médicaments, des fois, il y a ce qu'on appelle des incidents, des événements indésirables graves qui ont des conséquences fâcheuses pour les citoyens que nous sommes. Or ça, ce sont des outils de coordination qui vont permettre à un professionnel de santé d'aller regarder cette information. Et l'idée, c'est de lui pousser cette information dans son logiciel métier, de façon à ce qu'il n'ait pas trop de choses à piloter, mais à minimum dans son outil métier, qui va lui permettre de regarder vos résultats de biologie, vos antécédents chirurgicaux, etc. C'est le deuxième avantage que je vois en tant que citoyen, c'est de me dire que je suis pas un médecin, je suis pas un spécialiste de l'art, mais au moins ces informations importantes peuvent être disponibles pour un professionnel de santé qui ira regarder cette information dedans.
Et dans des cas urgents, le médecin qui me traite pourra voir directement si j'ai par exemple une allergie sur un certain médicament.
Exactement, une allergie sur une opération chirurgicale quand vous l'avez eue à 8 ans, elle peut être dramatique quelques années plus tard ou le coup d'après, mais même 10, 20 ans après, cette allergie va permettre à l'anesthésiste ou au chirurgien ou à tout médecin, tout professionnel de santé de noter cette allergie.
Donc le DSP peut sauver des vies.
Bien évidemment, alors on est au début puisque la phase de généralisation a commencé seulement le 1er janvier, mais bien évidemment dans tous les pays ou régions où les systèmes fonctionnent bien, on voit une amélioration de la coordination et c'est un vrai changement de partage et d'échange entre tous les acteurs.
Voilà ce qui en est des assurés. Quelle est l'attitude du côté de l'autre partie indispensable au bon fonctionnement du concept? Je parle des différents prestataires dans le domaine de la santé.
Il y a deux parties. Je pense que globalement, tous les professionnels de santé n'ont pas envie de voir des incidents, d'événements indésirables graves se produire parce que soit ils n'ont pas eu l'information, soit quand ils l'avaient, le médecin d'après ou le professionnel de santé d'après n'a pas pu récupérer cette information. Donc je pense que globalement, l'ensemble des professionnels de santé sont plutôt favorables. Il y a des démarches aujourd'hui entreprises par la MMD, par exemple, pour des applications mobiles où le patient reprend, entre guillemets, avec les professionnels de santé, le contrôle un petit peu de sa partie de prise en charge. Mais sur la partie médicale, c'est clair que ça, ce sont les professionnels de santé qui doivent s'approprier ces nouveaux outils, mieux partager, mieux échanger. Et là, c'est le challenge qui va être dans les 2-3 prochaines années. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on rende service aux professionnels de santé. Il ne faut pas qu'on rajoute des couches. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. Au départ, Tout n'est pas complètement intégré, donc ça nécessite un effort supplémentaire des professionnels de santé, mais globalement, d'ici quelques mois, quelques années, on aura des intégrations de plus en plus fortes qui permettront à un médecin ou à une infirmière, à partir de son logiciel, directement de voir comme une espèce d'outil de pilotage toutes les informations. Et l'idéal même, par exemple, vous citiez des allergies, on a une allergie sur une interaction médicamenteuse ou une allergie sur une molécule lors d'une opération, par exemple, de chirurgie. On doit avoir des flags arriver qui vont faciliter cette information. C'est un petit peu la contrepartie positive de trop d'informations tue l'information. Dans l'informatique, dans les systèmes d'information, parfois, plus on a d'informations, plus on est capable aussi, avec des outils adaptés, à pousser une bonne information d'alerte aux uns et aux autres.
Les professionnels peuvent bien évidemment se servir de l'outil pour s'informer, mais ce sont avant tout eux qui versent les pièces au dossier. Oui. Quelles sont les raisons qui pourraient les retenir de le faire ?
Alors honnêtement, pour l'instant, je vois peu de raisons. Alors, au regard tout simplement du nombre de documents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que pratiquement 1 million de documents dans sa phase de lancement, c'est bien, c'est même très bien. Ça veut dire que beaucoup de professionnels commencent à envoyer des informations. Alors pas tous, je l'ai dit tout à l'heure. Si mon logiciel n'est pas complètement capable d'aller lire facilement et de récupérer ou d'envoyer facilement, ça va venir un petit peu plus lentement. Mais ceux qui sont avec des logiciels bien interfacés où il y a pratiquement plus de clics à faire pour que l'information parte ou soit récupérée, on voit que on pousse facilement de l'information. On a beaucoup de résumés patients dans le cadre des soins coordonnés sur le médecin référent, c'est-à-dire des gens qui ont des pathologies chroniques. On voit que c'est beaucoup utilisé puisque les médecins remplissent ces résumés patients. L'assurance maladie envoie de son côté les résumés de prestations, c'est-à-dire en gros toute l'histoire un petit peu des remboursements. Et donc, on voit que ces documents arrivent bien. Ça veut dire que l'usage, malgré tout, dans cette phase de lancement, avec un niveau de convivialité qui n'est peut-être pas encore au top, mais ça arrive au fur et à mesure, est en train de se mettre en place.
Je vais tout de même vous poser la question, pourquoi ne peut-on pas les obliger à le faire ? La question vaut d'ailleurs aussi pour les assurés. Le système serait d'autant plus utile si tout le monde était forcé de participer.
Alors je crois qu'il y a deux parties dans la réponse. C'est que la première partie, d'obliger des professionnels ou des patients à faire quelque chose, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de réussite dans les pays où on a obligé les gens. Je pense que de démontrer un intérêt avec le temps, que les professionnels ou les patients s'approprient ces outils, me semble à mon avis beaucoup plus constructif que de l'imposer de base. Le deuxième point qui est important, c'est que le cadre de la loi indique que chaque professionnel de santé doit mettre dans un délai raisonnable les documents importants pour la prise en charge du patient. Donc ça, c'est un premier élément également qui indique que le professionnel, en tout cas sur des documents importants, doit le déverser. Mais de l'autre côté, les usagers, les assurés que nous sommes, pouvons demander, si le professionnel de santé ne le fait pas, à déverser ces informations, à les déposer dans le dossier de soins partagés, et ça, à la demande du patient, c'est-à-dire si nous, usagers, le demandons, le professionnel de santé doit le déverser dans un délai de 15 jours. Et ça, c'est dans le cadre réglementaire du règlement Grand Ducal, dossier de soins partagés. Mais très honnêtement, je pense que à ce jour, vu l'usage actuel juste dans sa phase de lancement, par rapport à mon expérience, c'est plutôt très positif, avec plutôt des professionnels de santé bienveillants par rapport à cette approche.
Mais est-ce que les professionnels pourraient éventuellement être gênés par la possibilité de savoir que leurs confrères peuvent éventuellement avoir accès à des informations ?
Mais ça, c'est le patient qui décide, en fait. Moi, patient, je peux dire tel ou tel professionnel, je leur file même pas de code, je peux dire, je leur autorise en permanence à aller voir mon dossier parce que quelque part, ils ont reçu des informations entre-temps de biologie ou je sais pas quelle autre information. Donc moi-même, en tant que patient, c'est moi qui donne accès aux informations aux professionnels de santé. Que ce soit ponctuel en leur donnant le code de présence, ça c'est un des types d'accès, et que ce soit en général, moi mon médecin de famille, mon médecin traitant, peut accéder autant qu'il le souhaite à mon DSP. J'ai une traçabilité qui me permet, moi en tant que patient, de dire ok, quelqu'un y a accédé pendant 1 minute, 1 seconde, 1 millionième de seconde et il est allé voir ça. Ça me donne cette possibilité qui serait la contrepartie en lui donnant accès. Et il n'y a vraiment que des professionnels de santé ayant accès à une relation thérapeutique avec moi qui peuvent y accéder. sauf si je leur donne moi-même accès, mais tout le monde ne peut pas accéder.
Parmi les assurés de la CNS, il y a de nombreux frontaliers qui sont assurés ici, mais se font traiter chez eux. Est-ce que leurs médecins établis en France, Allemagne, Belgique, peuvent également accéder au dossier et y verser des pièces ?
Alors, c'est le grand challenge des prochaines années, on va dire. Ce sont tous les soins transfrontaliers avec des programmes européens, des accords bilatéraux également qui sont en train de se mettre en place, soit dans le cadre du Benelux, soit dans le cadre de la Grande Région. Et on est en train d'accélérer pour permettre à des professionnels de santé, puisqu'il faut que nous, on soit capable d'authentifier un professionnel de santé frontalier si on souhaite qu'il y accède. Et là, c'est 12 à 24 mois, on espère avoir les premiers résultats de ces soins transfrontaliers.
Est-ce qu'une des finalités du DSP est de faire des économies ?
Alors moi, en tant qu'agence, très clairement, c'est pas mon... Alors, personne m'a passé cette mission, qu'on soit même très clair. Ça rentre pas dans mes missions. Mais quand on regarde bien, on peut même imaginer que quelque part, ça puisse permettre des économies. Quelqu'un, par exemple, sur un risque iatrogénique, c'est-à-dire vous avez un traitement, une pilule, par exemple, contraceptive, et puis vous avez également un traitement sur du cholestérol. C'est pas un cas très... On en rencontre plein. Si un jour vous changez de molécule et qu'il y a un accident, ça a des coûts. Ça, c'est déjà aussi une première approche en matière d'éviter des coûts. Quelqu'un qui décède, c'est quelque part des coûts également, des douleurs pour les familles. Ça, ce sont des éléments plus positifs qu'on pourrait... Et encore, je ne sais pas si on peut chiffrer quel est le coût d'un décès. Je pense que c'est inchiffrable quand vous êtes confronté à ce genre de problème. Et donc, globalement, on peut considérer que un bon usage d'un dossier de soins partagé, un bon usage d'un outil de coordination des soins amène de toute façon des économies quelque part. Mais ce n'est pas ma mission, ce n'est pas une vision de dire « ok, on diminue de temps le nombre d'examens, etc. »
La digitalisation continuera à faire des progrès dans ce domaine. À l'occasion d'une conférence de presse début octobre, il a été question également d'une application permettant par exemple, ou entre autres, de régler les honoraires des médecins par la CNS de sorte que le patient n'ait plus qu'à payer sa propre participation au cabinet. C'est en fait l'introduction digitale du tiers payant.
C'est en tout cas le paiement accéléré. Ouais. Je crois que c'est le terme qui est utilisé.
Et ce sera prêt quand ?
Alors, si tout se passe bien, ça devrait être en place courant premier trimestre, à mon avis, 2021. Mmh. Ce ne sont pas des produits concurrents. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est même les professionnels de santé souhaitent que les patients se réapproprient cette santé digitale, soient renouveau au cœur. Et ces solutions mobiles, l'agence s'y associe fortement. Et par exemple, demain, et quand je dis demain, c'est... J'espère avec cette application mobile qu'une prescription soit exactement comme quand vous prenez un avion, un train, votre identifiant votre identifiant est sur votre mobile, sur cette application mobile, oui. Et quand vous vous rendez dans la pharmacie de votre choix ou dans le laboratoire d'analyse biomédicale de votre choix, le professionnel scanne et va chercher sur un domaine sécurisé la pièce authentique. Et là, c'est une réappropriation et par les professionnels et par le patient de la digitalisation. Et bien évidemment, ces orientations sont plutôt vues favorablement par l'agence.
Ted Fadden, général directeur de l'agence e-Santé, Hervé Barge, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci. Merci à vous également.
Und Gespräche aus dem Vierfeld abgezeichnet gehen. Das ganze Gespräch könnt ihr nachher auch bei unserem Internetseite nachlauschen. 100,7.lu. Ja, wir führen Impressionen von Berlin, kriegt vom Lockdown Light. An ein paar Minuten gucken wir, was Frankreich das erste Bischofbotheke machen.